Question politique, c'est en direct et ça commence maintenant. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Question politique. Merci d'être au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Et merci de faire de cette émission le premier rendez-vous politique tous les week-ends. Notre invité jusqu'à 13h, c'est l'homme fort du syndicalisme français, celui qui a fait de la CFDT le premier syndicat de France. Et peut-être le dernier aujourd'hui à soutenir la réforme des retraites, mais jusqu'où et à quelles conditions? Qu'est-ce qui pour lui est négociable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle ligne défendra-t-il demain face au Premier ministre qu'il rencontrera dans l'après-midi? Question politique est en direct avec le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Pour intervenir, réagir, l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Et bienvenue. Deux mots d'ordre pour cette émission, clarté et pédagogie. Ça vous va?
Ça me va.
Parce que c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien à cette réforme des retraites. Pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait Laurent Berger, nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Première question, que ferez-vous le 5 décembre prochain?
5 décembre prochain, j'ai à l'agenda une rencontre avec des militants CFDT, des fonctions publiques, enfin de collectivités territoriales. Non, dans une réunion comme j'en fais toutes les semaines avec des militants de la CFDT pour discuter de leur situation, du syndicalisme, des choses à faire et comment on peut agir.
Des militants CFDT, mais pas les militants CFDT cheminots qui, eux, seront dans la rue.
Non, ils seront pas forcément dans la rue. Les militants CFDT cheminots, ils ont déposé un préavis pour dire au gouvernement, bon, maintenant, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut négocier? Ils sont, les militants cheminots CFDT, pour une réforme systémique des retraites. Ils le réaffirment dans un tract qui est sorti encore jeudi ou vendredi. Mais ils disent, il faut discuter de la transition qui fera que l'on passera d'un système qui est le nôtre aujourd'hui, qui a son histoire, qu'on peut vilipender, comme certains le font encore ce matin, avec je crois, beaucoup d'erreurs. Et ils disent, on veut passer d'un système à un système universel pour les futurs cheminots. On veut savoir comment ça se passe. C'est quand même pas anormal.
Mais comment ça s'est passé? Vous êtes fait doubler ou
Karine
pas
Bécard.
Vous aviez prévu, effectivement, que les cheminots vous demandent ça ou
non,
pas?
Non, on s'est pas fait doubler du tout. Les cheminots CFDT, ils sont en lien permanent avec nous. Et je le répète, ils sont pour la réforme systémique des retraites. On a y compris travaillé ensemble la façon dont pouvaient se passer les transitions entre le système, y a pas que, y a 42 régimes à un système universel, mais ils ont discuté avec le gouvernement, comme ça se fait dans d'autres champs professionnels, la RATP, l'éducation, et ils ont demandé à ce soit clair sur la situation
qui leur sera faite. Mais soyez clair aussi, concrètement, comment ça s'est passé? C'est eux qui vous disent, on aimerait bien déposer un préavis de grève?
C'est eux
ou c'est vous qui disent, il faudrait peut-être le faire?
Non, on savait qu'ils allaient le faire si jamais ils avaient pas la réponse, qui leur convenait. Mais regardez ce qu'ils disent. Ils disent, il reste 10 jours pour négocier. 10 jours pour que ce soit clair pour les cheminots, la façon dont ça va se passer pour eux dans le cadre d'un éventuel futur système de retraite universel.
Mais on va y revenir puisque c'est vrai qu'il y a la CFDT, cette confédération que vous dirigez, qui n'a pas déposé de préavis de grève, et la CFDT cheminots qui, elle, a déposé un préavis de grève. On y reviendra tout à l'heure pour essayer de comprendre pourquoi. Nathalie Saint-Cric.
Alors, pour qu'on soit clair, réforme systémique, celle dont vous parlez, c'est une réforme de l'ensemble des retraites et non pas ce qu'on appelle paramétrique en essayant de chercher de l'argent. Vous avez dit tout à l'heure que le ton se durcissait. Vous avez fait une allusion en disant « certains ce matin ». En clair, Richard Ferrand, ce matin dans le JDD, considère que la grève du 5 décembre est pour conserver des inégalités. Agnès Buzyn dénonce une grève corporatiste. Le gouvernement durcit le ton. Comment vous réagissez à ce durcissement? C'est en gros, on ne bougera pas, on garde notre système, en sachant que vous, au début, vous étiez favorable justement à cette grande réforme.
Non, mais c'est pas au début. D'abord, nous avons voulu de la pédagogie et de la clarté. Alors, je vais essayer d'en faire.
Oui.
Ce dont on parle, depuis le début, pour la CFDT, c'est depuis 2003, et on a affiné au fil des ans nos propositions. Nous, on veut un régime universel des retraites. Pourquoi? Parce que les carrières n'ont rien à voir avec celles qui étaient à l'origine de la création du système des retraites. Les gens bougent, ont des mobilités. Parce que les métiers pénibles influent sur les carrières et la façon dont on est traité au moment de la retraite. Parce qu'il y a des gens qui cotisent beaucoup plus longtemps que d'autres, parce qu'ils commencent à travailler jeunes. Parce que les femmes, dans notre système de retraite actuel, ont en moyenne 30% de retraite en moins que les hommes. Parce qu'il y a des jeunes notamment, et particulièrement des jeunes femmes, qui cotisent à la retraite dès la première heure travaillée, mais parce qu'elles n'ont pas 150 heures sur un trimestre, n'ont pas de droit créé à la retraite. Nous, on veut un système, systémique, c'est pas un beau mot,
non,
nous, on veut un système
en tout cas,
plus juste, plus lisible,
c'est ce
qui
dont
fait
on parle.
Qu'on soit solidaires les uns avec les autres
dans un
futur système des retraites.
Ça, c'est le changement de système de retraite.
Voilà,
c'est
et ça, la CFDT le porte depuis longtemps. Qu'un président de la République, dans une campagne, dise qu'il veut reprendre ce système-là, bah tant mieux. Maintenant, il faut qu'il applique son programme.
Alors
son programme,
c'est le changement de système.
Uniquement le changement de système.
Et il y a une autre réforme,
une deuxième qui se superpose. C'est ce qu'on fait depuis des années et des années pour rééquilibrer le système des retraites qui était en fort déséquilibre.
Notre système, le
système actuel. Notre système actuel avec 42 régimes et avec le fait que depuis 93 maintenant se succèdent des réformes pour rééquilibrer financièrement ce régime. Cette réforme paramétrique, c'est
pourquoi est-ce qu'on dit paramétrique, Laurent Berger, faisons de la pédagogie, parce qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut bouger.
Il y a le niveau des pensions.
Ouais,
des retraités, le niveau des retraites. Il y a la durée de travail sur une carrière et il y a les cotisations que les travailleurs comme les entreprises payent pour financer les retraites de ceux qui sont en retraite aujourd'hui.
Et on dit paramétrique parce que pour arriver à l'équilibre financier, il faut jouer sur l'un de ces trois paramètres.
Et donc, nous, ce qu'on dit depuis le début, on dit il faut cette réforme universelle des retraites parce que les efforts ont été faits par les salariés dans les retraites dans les réformes précédentes. Et donc, c'est ce qui était l'engagement au départ de la concertation avec M. Delevoye, c'était on va sur ce système universel des retraites.
Au départ de la concertation, tout le monde pensait que le système était équilibré. Depuis, on a découvert qu'il y aurait entre 8 et 17
milliards d'euros. Je vais répondre au Premier ministre qui a dit on a redemandé ce rapport du cœur parce que certains parlent de l'épaisseur du trait. Eh bien, je vous le dis, je réaffirme ça. Aujourd'hui, ce dont on parle en termes de déficit, c'est l'épaisseur du trait.
Non, 10 milliards, c'est pas l'épaisseur du trait.
Attendez, c'est 10 milliards, c'est plus de 130 milliards d'euros de retraite versés chaque année. Aujourd'hui, il y a, dans les réserves des différents systèmes de retraite qu'il s'agit de faire converger vers un système universel, il y a 127 milliards de réserves. 127 milliards de réserves. Dans le fonds de réserve des retraites aujourd'hui, il y a 36 milliards de réserves. Donc c'est fait pour ça.
Donc
c'est
le conseil d'orientation des retraites se trompe.
Non, il se trompe pas sur sa projection.
Il est utilisé par le gouvernement.
Laissons répondre Laurent Berger justement.
Il est utilisé par le gouvernement. Vous savez
le conseil d'orientation des retraites peut se tromper.
On peut essayer de finir. Oui. Là, le système actuel, les projections actuelles du conseil d'orientation des retraites. Elle montre une chose, c'est que ce n'est pas les dépenses qui augmentent, c'est les recettes qui baissent. J'explique. Parmi les recettes qui baissent, le fait qu'il y ait moins de fonctionnaires, ce n'est pas la faute des salariés, quels qu'ils soient. Et donc, moins de cotisations de fonctionnaires qui fait que le système a moins de recettes. Il y a la non-compensation par l'État des mesures qu'ils ont décidées. La défiscalisation des heures supplémentaires, figurez-vous que ça a un impact sur le financement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui paye les retraites. C'est depuis 84, Madame Veil depuis 84 avait créé une loi qui disait qu'à chaque fois que le gouvernement prenait une mesure qui avait un impact sur les cotisations sociales, il le compensait par son budget. Depuis 2 ans, ce gouvernement ne le fait pas.
Alors,
donc il a construit en partie le futur déficit qu'il nous annonce sur les régimes de retraite.
C'est ça que vous allez dire demain à Édouard Philippe ?
Oui, c'est ce que je dis depuis toujours. Je le dis très clairement. Si il s'agit d'aller sur une réforme universelle des retraites, la CFDT est pour si on a des mesures en termes de pénibilité, de compensation pour les femmes, de carrière pour les carrières hachées, etc. Si il s'agit d'aller d'abord ou en même temps dans une réforme où il y a un enjeu budgétaire et financier, la CFDT est contre.
Donc c'est un préalable, Laurent Berger.
Nathalie Saint-Fic, puis Françoise Fressoz.
C'est qu'on vous dise demain qu'il n'y aura pas de réforme paramétrique, c'est-à-dire budgétaire, pour essayer de trouver de l'argent. Et je veux bien, précisez-nous que vous considérez que c'est un faux problème.
Je considère que
quand on nous dit on va être endetté, ça va être terrible, vous considérez que c'est pas le problème, qu'on peut très bien vivre comme ça. Et deuxièmement,
si on vous promet
que pas de paramétrique, vous avancez et vous négociez.
Bien sûr, parce que vous savez, il y a des organisations et je les respecte qui sont contre le régime universel. La CFDT est pour des questions de solidarité et de justice. Et je l'assume. Depuis longtemps, nos textes de congrès, parce que nous on réfléchit aussi entre nous, on débat, nos textes de congrès depuis 2010 disent qu'on veut cette réforme systémique. Donc c'est pas parce qu'il y a des aléas un peu compliqués qu'on va renoncer à cela. Mais ce que je dis, tout simplement, c'est que la question de l'équilibre des retraites, personne nous fera croire qu'on est des irresponsables. La CFDT, depuis des années maintenant, des années, à différents moments, contre tout le monde, a pris ses responsabilités sur l'équilibre des régimes des retraites. Et donc, attendez, je finis. On a pris nos responsabilités. À l'avenir, je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans 10, 15 ans, 20 ans, en fonction de l'évolution de la situation économique. Et donc, il faudra une gouvernance du futur système qui fait que des gens assument leurs responsabilités, en partie l'État, en partie les partenaires sociaux, dans des débats avec les citoyens, etc. Je dis simplement qu'aujourd'hui, vouloir courir deux lièvres à la fois, d'accord, qui est la question de l'équilibre financier des retraites, qui n'est pas une question urgente pour la CFDT, et en même temps, vouloir créer ce système universel des retraites, qui crée des interrogations parce qu'on bouge, parce qu'on change, eh bien c'est irresponsable, ça ne marchera pas et je m'y opposerai.
Question Françoise Fressoz. Si demain Édouard Philippe vous dit on fera une mesure d'âge pour équilibrer le système, est-ce que vous dites je dépose un préavis de grève et je suis dans la rue comme les autres syndicats ?
Non mais Laurent Berger. D'abord, ce qui est sûr, je vais vous le dire Madame Fressoz, ce qui est sûr c'est que si il y a un moment donné une mesure paramétrique dans le projet de loi qui sera déposé, qui n'est pas déposé, qui n'est même pas commencé à être écrit. Donc si il y a en décembre ou début janvier un projet de loi qui est déposé avec une mesure paramétrique, la CFDT appellera les salariés à se mobiliser. C'est clair, s'il y a une moindre mesure paramétrique. Maintenant, vous me parlez de demain.
Oui.
Moi, jusqu'au bout, oui, mais jusqu'au bout, vous
demain,
savez...
Demain, vous avez rendez-vous avec le Premier ministre.
C'est ce qui est terrible, et les Français sont assez forts, en tout cas un certain nombre de clubs français, moi qui aime le foot, sont assez forts pour ça, pour considérer que le match finit à la 80e minute ou à la 75e quand on mène. Et le match, moi, je le mènerai jusqu'au bout, jusqu'aux prolongations. Jusqu'aux prolongations, s'il y en a. Pour faire comprendre qu'on a besoin, un, d'un nouveau régime de retraite universelle,
d'accord,
et deux... qu'on n'a pas besoin de mesures systémiques. Et je le dis, en ce moment, c'est clair, il y a une forme d'affrontement qui est en train de se construire entre ceux qui ne veulent pas cette réforme-là, parce qu'ils considèrent que le système actuel est parfait, et moi, je ne suis pas de ceux-là, et ceux qui pensent que, finalement, pourquoi s'emmerder, excusez-moi le terme, avec un peu plus de justice et d'équité, on le fera plus tard quand on aura d'abord fait travailler les gens plus longtemps. Moi, je m'oppose à ça, et je suis entre les deux, c'est assez parfois désagréable, mais en même temps, on poursuit notre cohérence et on la tiendra jusqu'au bout.
Donc, demain, vous direz au Premier ministre que le problème n'est pas d'équilibrer les comptes avant de passer au nouveau système de retraite. Mais s'il vous dit que le gouvernement annoncera un âge légal, de repousser l'âge légal de départ à la retraite d'ici 2025.
Je lui dirais qu'on construira les conditions de s'opposer à cette réforme. Voilà.
Donc là, pour le coup, vous franchirez le pas. Là, pour le coup, vous rejoindrez.
Non, arrêtez de me dire.
Vous l'avez dit tout à l'heure,
c'était la première organisation syndicale. Le 5 décembre, et je respecte. Encore une fois, je respecte. Vous ne me ferez pas avoir de discours négatifs sur d'autres qui font d'autres choix que nous. Mais le 5 décembre, il est question de se mobiliser pour une partie des organisations, avant même que tout ce débat-là émerge, contre le système universel des retraites. La CFDT, elle est pour le système universel des retraites, et on l'assume, parce qu'il y a besoin de davantage de justice et d'équité dans ce système universel des retraites. Et donc, on n'ira pas le 5, parce que le débat ne finira pas, la discussion ne va pas finir le 5, mais quand le projet de loi arrivera, soit on aura ce système universel qui sera dessiné, et les convergences qui seront dessinées avec des mesures sur la pénibilité, sur le minimum contributif, sur la carrière des femmes, des jeunes, précaires, etc. Soit, et donc dans ce cas, on soutiendra, c'est clair. Soit il n'y a pas de réforme vraiment universelle qui se dessine ou très loin, mais d'abord on a une réforme paramétrique et nous y opposerons.
Karine Bécard.
Je vous êtes un petit peu ambigu tout de même, parce que revenons sur les paramètres. Je me souviens d'un paramètre qu'Emmanuel Macron mettait sur la table au mois de septembre, l'augmentation du nombre de cotisations dans le temps. Vous n'étiez pas opposé à ce paramètre-là. En fait, vous êtes opposé au paramètre à la mesure d'âge. Donc pourquoi vous faites cette différence, cette
non,
différence les
observateurs. Non, mais vous savez, il faut toujours demander.
Vous étiez
demander...
d'accord avec Emmanuel Macron au mois de septembre.
Non, non, il faut toujours demander aux intéressés avant de demander aux commentateurs ce qu'ils pensent de notre position. À ce moment-là, moi je le découvre fin du mois d'août en disant c'est la durée de cotisation. Dans un système universel, ce qui fait sens, c'est effectivement la durée, la façon dont on va se créer des points. Mais encore une fois, moi je dis pas que dans les 25 ans ou 30 ans, ce serait un grand mensonge. Il se passera pas des choses sur l'évolution des retraites. Ce serait un gros mensonge parce qu'on ne connaît pas la situation économique, on ne connaît pas l'évolution démographique, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est hors de question d'aller sur ces mesures de paramètres.
D'accord.
On a toujours considéré ça, on a toujours été sur cette position. Et sur l'effet H pivot, etc., je pense que c'est... vous savez, les mesures de paramètres, je vais le dire autrement, pour être très pédagogique. En fait, ce dont il est question, si on bougeait aujourd'hui, on faisait une mesure financière. C'est d'accentuer les inégalités.
Le système actuel par répartition avant de passer
voilà.
au nouveau
eh bien,
système.
Aujourd'hui, on accentuerait les inégalités. On ferait travailler plus longtemps ceux qui déjà travaillent plus longtemps que les autres. On ferait, on accentuerait les inégalités liées aux femmes, enfin, au fait qu'on soit une femme. On accentuerait les inégalités de ceux qui cotisent mais ne reçoivent pas de retraite. C'est ça que je dis, c'est qu'on commencerait par accentuer les inégalités du système qu'on voudrait corriger pour ensuite faire croire qu'on va le corriger. Non, il faut qu'on le corrige tout de suite, le système, avec un système universel qui soit de justice et de lisibilité. Parce que c'est vrai, il y a des points qui sont très clairs. La confiance des travailleurs dans le système de retraite par répartition, elle souffre de plusieurs éléments. Un, des injustices qu'on peut subir. Deux, du fait que ce soit pas lisible. Nous, on a fait une grande enquête sur les retraites, qui s'appelait Parlons Retraite, qui montre un truc qui est quand même assez terrible. C'est qu'à quelques années de la retraite, on n'est pas capable de savoir combien on va recevoir. Comment vous voulez redonner confiance dans un système quand vous cotisez pour ceux qui sont en retraite aujourd'hui en espérant que les autres vont le faire plus tard, mais vous savez pas combien vous
toucherez. Ça paraît logique aujourd'hui d'aller travailler plus longtemps, en fait. On a l'impression que c'est le sens de l'histoire et que c'est le sens de la science de travailler un peu plus longtemps. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays européens.
Mais Madame Bécart, il y a des gens qui vont souhaiter travailler plus longtemps, il faut le respecter. Et c'est très bien. Et il y a des gens qui peuvent plus travailler plus longtemps. Il y a 40% des gens, des salariés, qui lorsqu'ils arrivent à la retraite, ne sont plus en emploi. Ils sont plus en emploi pour différentes raisons. Pour invalidité, ils sont plus en emploi pour maladie, ils sont plus en emploi parfois parce que les patrons ont considéré qu'ils coûtaient trop cher et étaient plus assez performants. Donc corrigeons ça, donnons la possibilité de travailler plus longtemps pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, mais n'allons pas accentuer les injustices pour tous ceux dont on parle pas en ce moment. Je suis désolé, tous ceux dont on parle pas et que moi je rencontre toutes les semaines, les travailleurs de l'agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment, les travailleurs de la grande distribution. Je suis désolé, c'est ceux-là qu'il faut auxquels il faut parler aussi aujourd'hui par ce système universel des retraites.
François Fressoz.
Comment expliquez-vous que le système par points que vous défendez soit si mal au fond compris par les Français? Parce que quand vous dites au fond ça va être lisible, ça va être équitable, les gens comprennent c'est flou, c'est compliqué et on va y perdre. Pourquoi cette réforme ne passe pas pour le moment dans l'opinion ?
Bah d'abord parce que depuis maintenant 6 mois, elle a été complètement rendue illisible parce qu'on a réinjecté l'idée justement de l'équilibre parce que on a donné le sentiment qu'on voulait se payer les régimes spéciaux à travers cette retraite, ce qui est complètement stupide. Ce qui est complètement stupide. Et puis le deuxième élément, c'est que tout ça prend terreau d'une certaine manière sur une société qui est quand même beaucoup dicté par la défiance. Et donc tout changement, et là c'est peut-être un autre élément dont on pourra parler, tout changement est vécu comme comme négatif, comme un recul, et c'est bien dommage. On devrait être dans un pays qui soit en capacité de poser les bases d'un débat serein sur ce sujet-là et de regarder comment on va avancer. Et là on est victime d'un certain nombre de jeux d'acteurs qui sont des jeux de posture où on va privilégier l'affrontement plutôt que l'intelligence collective.
Justement, Nathalie Saint-Cric. Pour parler clair sur les jeux de posture dont vous parlez, est-ce que vous considérez, un, que vous avez eu un exécutif uni face à vous, c'est-à-dire qu'entre Jean-Paul Delevoye, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, c'est tout et n'importe quoi, en clair. Est-ce que vous avez eu au moins l'impression que l'exécutif...
Je ne prendrai pas l'expression tout ou n'importe quoi, mais est-ce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, voilà, comme le dit Madame Bécart, évidemment pas toujours.
Bon, et est-ce que l'offensive, je reviens à ma question précédente, l'offensive qu'il y a dans les médias en ce moment entre Agnès Buzyn et puis Richard Ferrand, qui en gros dénonce les régimes spéciaux comme des privilégiés, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de nature à vous amadouer, à vous aider à revenir dans le jeu pour faire cette réforme? Mais, ou est-ce que c'est une erreur tactique ou stratégique?
D'abord, je voudrais être très clair. L'idée, c'est pas de revenir dans le jeu ou pas être dans le jeu. Vous savez, en ce moment, l'idéal, ce serait d'être nul.
Non, mais pas de ne pas vous rendre les choses encore plus difficiles.
Non, mais moi, c'est pas de question de rendre les choses plus difficiles. Si vous croyez qu'on est sur cette position-là, parce que ce serait un jeu de posture.
Mais je vous dis pas ça. Je vous demande simplement s'il ne vous complique pas la tâche.
Parce que moi, je suis attaché à la justice et à que notre système de retraite par répartition soit beaucoup plus juste. Ce qui est sûr, c'est que vous savez, en 2018, la réforme ferroviaire, elle a commencé par une affirmation. En gros, je la caricature un peu, je l'accorde. C'est en gros, vous les cheminots qui travaillez pas assez, on va vous remettre dans le droit chemin et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça a été vécu comme une profonde humiliation. Faut arrêter. Vous savez, les taux de remplacement...
Donc il complique les choses, notamment avec la CFDT cheminots, en tenant des propos pareils.
Il complique les choses avec tous ceux qui, dans notre pays, préfèrent les séparatismes que les projets collectifs. On a besoin de projets collectifs. Ce système universel des retraites, il peut être bon pour tout un tas de gens qui sont aujourd'hui dans des régimes particuliers. Il peut être bon, il faut qu'on travaille simplement les transitions. Et puisqu'il s'agit des cheminots, il n'y a aucune difficulté avec eux. Les cheminots, ils ont dit, on veut un système de retraite par répartition, mais c'est logique, on veut travailler à la transition pour que ce soit le moins brutal possible, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont un contrat de départ qu'il faut respecter.
Avouez que c'est compliqué à suivre, Laurent Berger. Juste avant votre portrait, j'aimerais que vous nous expliquiez. Didier Aubert de la CFDT Cheminots sortait jeudi de son entrevue avec Jean-Paul Delevoye et il disait qu'il fallait garder le statut, le régime spécial des cheminots, alors que vous, vous dites qu'il faut en finir avec les régimes spéciaux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous expliquer que vous êtes sur la même longueur d'onde.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le statut des cheminots, c'est fini au 1er janvier 2020, suite à la réforme ferroviaire de 2018. C'est le gouvernement qui a mis en place ce système de flux stock, comme ils disent. C'est lui qui l'a mis en place. Si vous êtes embauché aujourd'hui à la SNCF, vous l'êtes encore au statut. Et dans deux mois, dans un mois et demi, vous ne l'êtes plus.
Mais vous maintenez qu'il faudra en finir avec les régimes spéciaux.
Mais moi, je ne dis pas il faudra en finir. Je dis il faudra que l'ensemble des régimes convergent. Est-ce qu'ils peuvent converger à des rythmes différents? Oui, mais pour une raison, mais pour une raison de bon sens. Quand vous avez n'importe quel salarié qui a été embauché à certaines conditions à un moment donné, qui arrive à 10 ans ou à 15 ans de sa retraite, et à qui on dit finalement t'oublies le truc de départ, t'oublies le contrat de départ, on va faire autrement. C'est pas entendable, c'est juste des questions de bon sens. C'est pourquoi le gouvernement a arrêté la fin des recrutements au statut en janvier 2020 et a décidé que les autres restaient dans le statut pendant la réforme ferroviaire de 2018. Tout simplement parce qu'il sait, et c'est plutôt sage, qu'on ne dit pas aux gens qu'on change les règles du jeu en cours de match.
Donc vous êtes d'accord avec la fameuse clause dite du grand-père?
Non, mais moi, la clause du grand-père, c'est le président de la République.
Il faut expliquer ce qu'est la clause du grand-père, Nathalie.
C'est-à-dire, en gros, l'idée qu'aucune personne actuellement ne soit traitée avec ce système de retraite et que seuls les nouveaux entrants sachent exactement ce qui va leur arriver. Expliquez-nous juste.
Le premier qui en a parlé publiquement, c'est le président de la République sur une émission, si vous n'hésitez pas sur votre antenne, un lundi matin sur RTL. Vous êtes un syndicaliste, chez les cheminots. Vous êtes un syndicaliste. Vous entendez le président de la République parler d'une règle qui est plus favorable, qui serait plus favorable pour vous que ce que vous aviez vous-même envie de travailler en termes de transition. Vous faites quoi? Vous dites, on repart chez nous. Ou vous dites, il ouvre la porte, on veut la saisir. Il y a un problème. Quand vous parliez tout à l'heure de la confusion, ça fait partie de la confusion. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, écoutez, soyons clairs, la réforme...
Vous voulez quoi? Vous dites le mot transition sans arrêt. Or, le problème de la transition, c'est le temps de la transition.
Comme je considère que la réforme systémique des retraites est une bonne réforme, si on la renvoie à tout le monde, plus tard, dans 40 ans, je considère qu'on...
Les régimes spéciaux, on leur dit ça sera quand ? C'est
qu'on veut discuter avec eux, avec le gouvernement, c'est ce qu'ils ont porté, et les cheminots CFDT ont porté une vision. Maintenant, ils se sont mis dans la clause du grand-père, parce que le président de la République l'a quand même dit. Soyons clairs, je veux dire, qui est-ce qui a balancé le truc?
Et donc, soyez clairs, Laurent Berger.
Mais moi, je suis clair, monsieur Badou, je suis extrêmement clair, je veux dire, je ne veux pas que...
D'un côté, il y a certains, dans votre confédération, qui veulent garder les régimes spéciaux.
Non,
vous dites qu'il ne faut pas garder les régimes spéciaux. Vous n'êtes pas d'accord.
Non.
On a le sentiment que vous ne tenez pas la boutique. C'est comme ça qu'on le perçoit.
Vous pouvez avoir ce sentiment-là. Franchement, ça.
Non, mais je vous pose la question.
Pas beaucoup. Mais
La CFDT cheminot qui dépose un préavis de grève, c'est quand même quelque part pour protéger son régime spécial.
Elle dit. Mais.
Pas du
tout. Vous connaissez des travailleurs qui n'ont pas envie de protéger leur situation? Moi, j'en connais pas, excusez-moi. Et donc, la question, c'est de faire bouger le système et que eux aussi soient embarqués dans le système. La question, c'est juste la question de la transition. Mais, vous savez, c'est marrant qu'on parle... le gouvernement a réussi son coup, quand même, de vous à moi.
Pourquoi?
C'est qu'on parle, parce qu'on parle des régimes spéciaux, mais on parle pas de l'ensemble des travailleurs qui ont à gagner... Dans un futur système de retraite universel.
Non, on progresse par étapes, on vous demande juste là, les régimes spéciaux.
Nathalie Saint-Cric.
Est-ce que vous considérez,
les régimes spéciaux, je suis très clair, ils sont intégrés dans le régime universel.
D'accord.
Et il faut, régime par régime, situation par situation. On va prendre un autre exemple.
Pas dans 30 ans, c'est ce que vous dites. Vous dites, ça n'est pas possible que ça arrive trop tard. Il faut négocier pour trouver...
Il faut système par système, regarder quelle est la période de transition pour qu'on ne soit pas...
Et elles peuvent être différentes en fonction de chacun.
Oui, elles peuvent être différentes. Je vais prendre un autre exemple. Les salariés de l'éducation nationale, les agents de l'éducation nationale, on sait que les enseignants n'ont pas de prime, qu'ils ont un système qui, en gros, si je devais le résumer aujourd'hui, on vous paye peu, au début de votre carrière, il y a une accélération à la fin, et en fait, le contrat social implicite qui est passé, c'est que ce sera mieux, vous aurez une bonne retraite, mais pendant votre carrière, vous ne serez pas trop payé. Ça, vous ne pouvez pas passer d'un système actuel au système futur, comme ça, en claquant des doigts. Ça nécessite, tout simplement, de la revalorisation salariale. Ça se passera pas en 2 ans, personne ne le croit. Donc ça sera en 10 ans. Moi, j'essaye juste de mettre les choses sur la table de façon la plus honnête possible. Arrêter les caricatures. En gros, on dirait il faudrait que tout le monde soit traité de la même manière. Ce sera tout le monde à la fin sera traité de la même manière. Mais il va y avoir des transitions plus ou moins longues, il faut l'assumer.
Midi et demi, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est l'invité de Questions Politiques.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Votre portrait, Laurent Berger, signé Karine Bécard.
Dans le face-à-face qui vous oppose à Emmanuel Macron, on se demande, Laurent Berger, finalement, qui va gagner ? Acte 1 du quinquennat, vous avez été passablement humilié. Celui qui, sous François Hollande, pouvait passer pour le ministre du Travail bis, s'est retrouvé totalement mis de côté. Et puis il y a maintenant l'acte 2, après l'apparition des Gilets jaunes. Le président Macron s'est à nouveau souvenu que vous existiez. Vous devez quand même, à ce moment-là, Laurent Berger, vous sentir sacrément instrumentalisé. Mais vous vous en fichez. Ce qui vous importe, en tout cas, c'est ce que vous affichez. C'est d'avancer, de faire progresser vos dossiers. Vous êtes un homme très organisé à la tête de la CFDT. Une CFDT à laquelle vous avez tout donné. Vous y avez adhéré vers 20 ans, quand vous êtes encore étudiant. Et très vite, le petit responsable local va devenir un référent régional, avant de vous retrouver tout aussi rapidement propulsé au niveau national. Ce qui signifie, Laurent Berger, que vous n'avez jamais vraiment travaillé. Quand vous devenez, à 44 ans, le sixième secrétaire général, repéré par François Chérec et Nicole Notat, qui nous commandent ce choix.
Il a une expression à la fois équilibrée, respectueuse, même quand il pousse un coup de gueule, et que c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il se distingue aussi dans le paysage français aujourd'hui.
Nicole Notat et la réforme des retraites, déjà à cette époque-là, elle avait décidé d'accompagner le gouvernement Juppé, ce qui avait bien failli à la CFDT tout faire sauter, à commencer par sa crédibilité. Alors suivrez-vous, vous, 25 ans après, cet autre juppéiste, l'actuel Premier ministre, Édouard Philippe, c'est compliqué, c'est un dossier pour votre syndicat, Laurent Berger, qui est décidément toujours un pari risqué. Ce qui est certain, en revanche, c'est que vous avez changé. Certes, vous êtes encore de gauche et catholique, et certes, vous êtes toujours très peu charismatique, mais vous avez acquis une dimension tout à coup politique. D'ailleurs, en vous rejoignant avec d'autres ONG, Nicolas Hulot ne s'y est pas trompé. Vous avez su trouver les mots ces deux dernières années pour parler de notre société. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour mieux vous imposer face au président ? À l'exception des retraites, vous n'avez réussi pour l'instant à peser réellement sur aucun autre sujet.
Réaction Laurent Berger ?
Ouais, il y aurait beaucoup à dire. J'ai été conseiller en insertion professionnelle avec des gens qui travaillaient au RMI pendant 2 ans. Mais vous pouvez le mépriser, mais c'est la réalité.
Non,
j'étais même
rien.
Délégué du personnel et je travaillais avec des gens qui étaient en grosse galère et j'essayais de les aider à reprendre un travail. Deuxième élément, Madame Juppé, en 95, si c'était pas la réforme des retraites qu'elle a soutenue, elle a soutenu la réforme de l'assurance maladie. Et elle était justement opposée à courir 2 lièvres à la fois, qui était la réforme de l'assurance maladie et en même temps la réforme des régimes spéciaux des retraites. Troisième élément, je vais être très clair. J'en ai assez, moi, de donner le sentiment que notre pays se résumerait à des affrontements entre des hommes et des femmes, souvent des hommes, malheureusement. C'est pas ça, en fait, le débat qui est sur la table aujourd'hui. Le débat qui est sur la table aujourd'hui, c'est quel système de développement on veut créer
demain. Bien sûr,
demain.
Mais il y a aussi un climat social, il y a aussi une situation politique. Votre tradition, c'est la négociation et pas l'affrontement. Votre tradition, c'est la négociation et pas l'affrontement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, de passer à côté d'un...
Il ne faut pas me prêter des intentions ni politiques ni religieuses, que je ne l'aurais pas.
Non.
Vous êtes un cadeau de gauche, quand même, non ?
Non, mais c'est ma tradition, c'est ma culture de base.
Il n'y a rien de grave à le rappeler.
Ah non, mais vous ne l'avez pas rappelé. Vous avez dit que vous êtes toujours de gauche et catholique. Vous n'en savez strictement rien, si je peux me permettre.
Non, mais donc vous l'êtes plus juste... ou pas parce que donc
non de quoi
vous êtes toujours de gauche et vous êtes toujours catholique ou vous n'êtes
plus de gauche les responsables CFDT gardent leur vote pour eux et si je suis toujours je suis toujours cette religion, la réponse est non puisque vous la demandez mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme l'affrontement entre les uns et les autres.
Vous oui, savez, la culture débat. De l'affrontement dans laquelle nous sommes.
Oui, mais justement, ben moi je m'en sors.
Quand on est à la tête d'un syndicat,
je suis désolé, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui a été obtenu. Vous savez, on a beaucoup milité avec d'autres, vous parlez du pacte et c'est pas que Nicolas Hulot, c'est la Fondation Abbé Pierre, c'est ATD Quart Monde, c'est le Secours Catholique, c'est la FAGE, la mutualité avec lesquelles on a travaillé. On s'est battu pour la stratégie pauvreté par exemple. Elle est aujourd'hui insuffisante, mais on s'est battu aussi sur la sont des mesures pour l'insertion professionnelle, avec le soutien à l'insertion par l'activité économique de toutes ces structures qui aident, je connais bien le sujet, à repartir vers l'emploi un certain nombre de gens. Donc, Bah oui, on gagne pas toujours. Le syndicalisme, c'est jamais 100% de victoire. Ce serait trop beau, j'adorerais ça, mais c'est pas le cas. Et donc, moi, juste ce que je veux dire, c'est que notre pays, il est en état d'hystérisation. Permanent. Mmh. Quasi permanent maintenant depuis des années. Et que s'il faut, sans charisme, en donnant le sentiment qu'on est un peu discret, etc. Mais il faut rappeler sans cesse ce qui m'apporte, c'est qu'on construise un modèle de développement plus respectueux des femmes et des hommes, plus respectueux de l'environnement. Et pour ça, il faut avoir des positions qui, de temps en temps, sont pas binaires, font appel à l'intelligence, plutôt à la nuance, plutôt qu'aux caricatures. Ben, j'assumerai ça jusqu'au bout, jusqu'à l'issue de mon mandat à la tête de la CFDT. Puis après, je vous rassure, je continuerai de travailler.
Françoise Fressoz.
Je voudrais qu'on s'arrête sur le parallèle avec 95, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont communs. Une partie des Français avait fait grève par procuration pour dire leur ras-le-bol. Est-ce que vous sentez le climat d'aujourd'hui, la même envie de dire non à Macron, et auquel cas ça pourrait aussi vous mettre en difficulté puisque vous défendez la réforme.
Laurent Berger.
Oui, c'est ce qui est sûr, c'est que le climat, il est extrêmement électrique. Donc il y a les possibilités que c'est une forme de ras-le-bol généralisé. Il y a une différence avec 95. Il y a un point commun qui est, vous l'avez rappelé, qui est tout à fait juste, c'est que le gouvernement est tenté de courir deux lièvres à la fois. Et on n'en attrape aucun en général, ou alors on est obligé d'en lâcher un au bout d'un moment, ce qui n'est jamais très intelligent. C'est ce qui s'est passé en 95. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, le niveau de violence dans notre société est bien supérieur à ce qu'il était en 95. Le niveau de ressentiment est bien supérieur. Vous savez, moi hier j'étais à la manifestation Nous Toutes. Quel plaisir de manifester de façon
en
nombreuse. Tranquille, en violet, j'ai peu de violet sur moi, mais
contre les violences faites aux femmes,
à 50 000 personnes dans Paris, et bien plus encore si on compte ailleurs, sans violence, dans un bon climat, sur un sujet grave qui fait qu'on était unis les uns avec les autres, quelles que soient par ailleurs nos idées sur les retraites, etc., mais sans violence. Malheureusement, c'est trop peu le cas.
Qui peut le calmer, ce climat ?
Je pense que c'est tous les acteurs. Je pense qu'on a tous une responsabilité. C'est pour ça que,
tous les acteurs, c'est curieux, Laurent Berger. Aucune voix de sagesse ne peut être entendue en ce moment. Et pour le la plupart des syndicats seront dans la rue. Je termine. Vous n'avez pas peur de passer à côté d'un mouvement important le 5 décembre ?
Non, moi j'ai peur de passer à côté de réformes de justice sociale. Ce qui m'obsède, c'est que le pays passe à côté de réformes sociales. Et après, tous les acteurs, je suis désolé, la CFDT, elle incarne aujourd'hui, je suis désolé de le dire, c'est comme ça, elle incarne cette voix qui est travaillons sur le fond des sujets, et on n'est pas tout seul. Le pacte du pouvoir de vivre dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est 51 organisations, voire 52 je crois aujourd'hui, qui on fait des tours de France. Moi cette semaine je vais à Bordeaux, on va dans le Nord, et à chaque fois il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Donc je pense que c'est chacun qui doit assumer sa part de responsabilité pour dire voilà ce que sont mes opinions, voilà ce qu'on pense. Notre société, elle doit pas être aseptisée. On doit pas être envoyé entre un affrontement entre les extrémistes et les progressistes. Chacun doit pouvoir dire ses nuances, ses propositions, etc. Mais chacun doit le faire dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire un débat qui doit respecter les différents points de vue et sans caricature, sans affrontement stérile, simplement l'affrontement des idées.
Nathalie Saint-Cricq. Un certain nombre de personnes dont Bruno Retailleau, Valérie Pécresse considèrent que si le pays est bloqué à la suite de la grève du 5 décembre qui se poursuit et que les fêtes de Noël risquent d'être totalement ratées à cause de ça et personne ne pouvant se déplacer, ils demandent un service minimum qui en soit un vrai, non pas la loi de 2007 de Nicolas Sarkozy, en fait, qui demande surtout qu'on déclare qu'on est gréviste 48 heures à l'avance. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée
Non, mais c'est encore ça la même logique de l'affrontement. Je préférerais que les choses soient claires d'ici le 5, notamment, je le dis, concernant un certain nombre de régimes particuliers qui s'inquiètent, mais pas simplement, que les choses soient claires d'ici le 5, pour que, il faut que le gouvernement apaise, il a une part de responsabilité, mais il ne faut pas appeler à des mesures.
Que tout le monde comprenne, Bruno Retailleau, président des sénateurs Les Républicains, va déposer une proposition de loi pour instaurer un service minimum garanti dans les transports publics, à la SNCF, à la RATP notamment, pour que les entreprises soient contraintes de garantir un tiers du trafic quotidien aux heures de pointe, c'est-à-dire le matin et le soir. Ça, hors de question pour vous.
Non, je souhaite que la grève, elle soit la plus courte possible. Et donc, et évidemment, il faut qu'il y ait le moins de perturbations possible. Mais c'est pas, je veux dire, la RATP, on n'appelle pas. La SNCF, je le répète, on veut éviter d'y aller. Donc il faut discuter. Moi je crois que c'est maintenant qu'il faut discuter pour essayer qu'il y ait le moins de perturbations possible. Et après il faudra qu'on se mette autour de la table. Moi je sais pas ce qui va se passer le 6 ou le 7, c'est pas la CFDT qui appelle.
Mais qu'est-ce qui remonte du terrain quand même, vous savez ce qui va se passer la grève risque d'être longue ou pas?
J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que il faut distinguer ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur privé. On sent pas que les retraites c'est un sujet à ce point explosif. Et donc on verra ce qui se passera. Mais encore une fois, il faut que chacun appelle l'enjeu. Encore pour la CFDT, l'enjeu c'est pas anti gouvernement ou pro-gouvernement. L'enjeu, il est le sujet. Donc est-ce qu'on peut parler du sujet? Et peut-être que c'est le moment que le gouvernement doit choisir pour dire bon. Comme j'avais proposé l'année dernière, mais en gros, est-ce qu'on pose un peu les affaires, on se dit où sont les gros, les gros thèmes à traiter, parce que nul doute que le 5, il sera pas question que des retraites pour un certain nombre de gens, ouais. Il sera question d'un ras-le-bol sur d'autres sujets.
Alors, et d'Emmanuel Macron, François Fressoze.
Vous dites après le 5, il faudra rediscuter. D'abord, est-ce que les syndicats seront suffisamment forts et pas débordés par la base pour discuter? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour de ces discussions?
Mais m'interrogez pas sur le 5. La CFDT n'appelle pas le 5. Et très clair pour ça, on n'appelle pas parce que nous, on n'est pas contre une réforme.
Malgré tout, une date importante, la mobilisation se prépare.
Bah oui, et ben dans l'après 5, il faut que sur la question de la réforme des retraites, il puisse avoir une démonstration qu'on est sur des mesures de justice et d'équité. Qu'on accompagne les transitions. Enfin, je suis désolé, je me répète, mais qu'on accompagne les transitions dans les différents secteurs professionnels, et puis que le gouvernement entende qu'on a besoin de s'inscrire dans une vision. Ce dont on souffre dans notre pays aujourd'hui, c'est que finalement, on ne sait pas où on va collectivement. On ne sait pas ce qui doit être le commun à partir duquel on doit construire, y compris des débats d'idées, des confrontations. Quel modèle de développement? Comment s'inscrire dans la transition écologique? Comment on fait face à la révolution technologique et à l'impact que ça peut avoir sur les vies, mais sur l'emploi particulièrement? Comment on fait face finalement aux enjeux des inégalités qui se creusent dans notre pays, qui se creusent et qui sont ressentis de plus en plus durement et avec justesse.
Mais on voit de très nombreux secteurs malgré tout commencer à converger vers ce 5 décembre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est juste contre les retraites ou c'est de plus en plus contre Emmanuel Macron finalement que les gens ont envie de manifester le 5 décembre?
Laurent Berger.
Je pense que ça dépasse le sujet des retraites, mais est-ce que c'est contre une personne ou le président de la République? J'en sais rien. C'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'aime beaucoup manifester pour... J'aime beaucoup manifester en disant voilà quelles sont les solutions qu'il faudrait construire. Et les solutions qu'il faudrait construire, c'est sûr, c'est que l'acte 2 dont vous avez parlé tout à l'heure se conjugue autrement que par la réforme de l'assurance chômage qui a été extrêmement négative pour les demandeurs d'emploi et la potentielle réforme des retraites qui serait davantage budgétaire que de justice.
Notre pays est trop négatif sur lui-même. Les mots sont d'Emmanuel Macron, il les a prononcés devant des étudiants à Amiens. On a l'impression que vous pourriez les reprendre.
Non, notre pays va mal, mais je crois que notre pays, moi je dis pas ça, il est en dépression. Et c'est pas parce que quelqu'un est en dépression qu'on lui dit « mais regarde, tout va bien, la situation économique n'est pas si mauvaise que ça dans un certain nombre de secteurs, il faut le reconnaître. Il y a eu, y compris dans les entreprises, parce que les syndicats se sont mobilisés de la répartition des richesses pendant cette année. Donc tout n'est pas négatif. Enfin, je veux dire, ce serait terrible de dire que rien ne va dans notre pays. C'est pas vrai, il suffit de sortir pour s'en apercevoir. Mais ce qui est sûr, c'est que notre pays ne croit plus en son devenir commun. Il n'y a plus de boussole vers laquelle on peut, qui nous guide vers un projet de développement qui soit autre chose. Et je vais vous dire, on est trop sur des logiques économiques. Tant que nos indicateurs, pour savoir si notre société va bien, ce sera le PIB, on sera dans l'impasse. Si on n'intègre pas les questions de santé, parce que l'hôpital public est performant pour les patients, mais il le fait sur le dos des agents hospitaliers. Tant qu'on ne mesurera pas la question de la pauvreté, la question de l'impact de notre développement sur la biodiversité, sur l'environnement, tant qu'on n'aura pas d'autres indicateurs de progrès, ça ne marchera pas. Et ça existait, ça. Il y avait une loi qui avait été menée par Madame Eva Sas, une députée, qui prévoyait que tous les ans, le Parlement fasse le bilan au regard de ces 10 indicateurs d'une dizaine sur l'indice de progrès. Depuis 2 ans, le Parlement ne le fait pas.
Françoise Fressoze.
Une convention citoyenne est à l'œuvre actuellement pour essayer de donner des mesures qui baisseront les émissions à effet de serre de 40% dans un souci de justice sociale. C'est une expérience inédite, 150 citoyens tirés au sort. Est-ce que vous approuvez cette initiative? Comment vous la regardez? Est-ce que vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose dans le sens que vous dites?
Laurent Berger.
Je la regarde avec beaucoup d'intérêt. Je suis même intervenu devant cette convention citoyenne. J'ai été frappé d'une chose d'abord, avant de parler du sujet, c'est que des gens qui venaient d'horizons divers, avec des âges différents, avec des catégories socio-professionnelles différentes, etc., se parlaient et étaient capables, en n'étant pas forcément d'accord évidemment, de réfléchir en commun. C'est fondamental aujourd'hui, c'est très rare, c'est malheureusement trop rare. Deuxième élément, c'est vrai que il va falloir c'est là où ça va se compliquer, il va falloir des propositions concrètes pour faire des pour que sur la question climatique, on passe un cap qui n'est pas passé aujourd'hui. Je suis désolé, il peut y avoir des intentions mais s'il n'y a pas les moyens qui vont avec, ça ne marche pas. C'est le cas aujourd'hui par exemple de la transition de la rénovation énergétique des bâtiments. On peut afficher des objectifs ambitieux de plusieurs centaines de milliers, mais si on met pas l'argent qui va avec, ça marche pas. Donc on va voir comment ça se passe. Mais oui, moi je crois que l'avenir de notre pays sur la question démocratique, au-delà des sujets, se passe sur la capacité à reconnaître la légitimité de ceux qui sont élus pour exercer le pouvoir. Ils ont le suffrage universel pour ça. Après, il faut qu'ils aient une pratique du pouvoir, mais enfin, il y a les acteurs sociaux. Et je pense qu'il faut arrêter de croire que les corps intermédiaires, comme on dit, même si c'est pas beau comme terme, serviraient à rien. C'est ce qui a été fait pendant les premières années de ce quinquennat. Et puis, il y a une aspiration citoyenne à avoir davantage de place sur les choix qui nous concernent. On le voit beaucoup dans l'entreprise. Une des premières préoccupations des salariés d'entreprise, c'est que je voudrais un peu qu'on m'écoute sur ce que j'ai à dire sur mon travail, sur la façon dont je l'exerce. Mais c'est vrai aussi dans la cité. Je pense qu'il y a une aspiration à prendre davantage de poids sur les choix qui nous concernent et que cette convention citoyenne, elle pourrait très bien se décliner localement.
Sur d'autres sujets que sur l'environnement. Sujets.
Et c'est, lesquels, et c'est, par exemple?
Je pense sur la question des inégalités. Parce que tout le monde voit bien que les inégalités existent. Sur la question de l'initiative dans les territoires, je pense qu'il faut créer des budgets citoyens et donner la possibilité d'expérimenter à des citoyens sur un certain nombre de sujets, de faire ensemble. Il y a beaucoup de
choses
qui se passent déjà.
Alors qu'ils sont systématiquement réduits maintenant, les budgets
citoyens. Justement. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, vous savez, je crois qu'il faut redonner de l'envie de faire ensemble et au service d'un modèle de développement. Et on n'a ni le modèle de développement qui est défini aujourd'hui, ni on donne suffisamment les moyens de faire ensemble.
D'autant qu'il y a une nouvelle forme de capitalisme qui se développe et qui s'impose, ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, avec des nouveaux travailleurs des applis, c'est l'expression de la sociologue Dominique Méda, c'est-à-dire ces travailleurs indépendants qui sont très rarement salariés, le plus souvent très peu, très mal protégés. Ils sont livreurs, ils sont chauffeurs de VTC. Comment est-ce que on peut réunir des travailleurs qui sont le plus souvent isolés? Vous allez créer un syndicat pour essayer de les représenter.
Oui, on va s'associer avec l'Union
des
auto-entrepreneurs. Il y a trois objectifs. Le premier, c'est de créer une représentation collective. On voit bien qu'on a beau être travailleur indépendant, on souffre énormément si on n'a pas une parole collective pour peser face à ceux qui sont certes pas le patron, mais enfin qui sont quand même les donneurs d'ordre, parce qu'ils sont indépendants mais dépendants économiquement. Deux, de faire porter des revendications sur la protection sociale, les conditions de travail, la retraite, le droit à la baisse d'activité, la rémunération minimale de l'activité. Et puis trois, il faut qu'on rentre dans une logique de confrontation beaucoup plus construite et organisée face à ces plateformes qui aujourd'hui, excusez-moi, pour une part se moquent du monde quand ils disent on va faire notre propre charte. On va décider de façon unilatérale ce qui serait bon pour les travailleurs indépendants qu'on fait travailler. Donc nous, on veut rentrer dans une logique de construction d'un rapport de force. C'est pour ça qu'on lance cette initiative.
Et est-ce que vous avez l'impression que cette initiative, on entendait Muriel Pénicaud ce matin dire qu'elle aussi, elle voulait réfléchir et travailler pour renforcer les droits de ce genre de salariés. Est-ce que vous avez l'impression que c'est juste pour faire bien ou qu'il y a aussi une volonté du côté du gouvernement de faire quelque chose?
En tout cas, dans la loi d'orientation des mobilités, ce qui est préconisé, c'est des chartes unilatérales par l'employeur, par les plateformes, pardon. S'il y a besoin, moi, la différence entre Madame Pénicaud et moi, c'est que moi, je fais pas la loi.
Non plus, hein, c'est les députés, mais.
Oui, c'est vrai. Elle peut le proposer. Vous avez raison, Madame Descartes, mais elle peut quand même avoir une influence un peu forte. Non, là, dans la loi d'orientation des mobilités, cette idée, et c'est une des raisons pour lesquelles nous créons cette alliance, cette idée qu'il y aurait de façon unilatérale des avancées qui seraient proposées par les plateformes pour les travailleurs qu'elle fait travailler, j'y crois pas beaucoup. Moi, je suis un syndicaliste. J'ai jamais vu un employeur
spontanément
à ce point avoir.
Mais vous n'avez jamais commandé de pizza sur une application sur votre smartphone ou un VTC?
Non, un VTC, ça m'est arrivé, ouais, bien sûr. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il faut nier cette réalité de travailleur indépendant. Je crois qu'il faut lui faire garantir des droits, parce que à cette à cette question, il faut tous s'interroger, c'est à un moment donné, dans nos comportements, mais c'est pas vrai que pour les travailleurs indépendants, dans nos comportements de consommateurs, etc., est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas influé là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais, par exemple, je commande jamais de livres sur des plateformes, je préfère aller à la librairie. Mais c'est pas offert à tout le monde, cette possibilité-là, parce qu'encore faut-il en avoir un. Donc, je veux pas rentrer, nous, on veut pas rentrer dans les jugements de valeur de ce côté-là, mais on veut que ces travailleurs qui existent, qui sont réels, et des droits supplémentaires et une représentation collective.
Nathalie Saint-Christian.
Juste une précision. Vous avez dit dans, il y a une phrase dans le journal du dimanche du 8 septembre. Vous avez dit à l'époque, c'est-à-dire 2017, 80% de la CFDT était sur la ligne Macron. Aujourd'hui, j'en donnerai pas plus de 20%. Vos militants, ils vont vers quoi? Alors, on voit bien que vous parlez d'autres formes de militantisme, d'autres formes d'action politique. On voit aussi que les Français ont pas franchement envie de se refaire, si j'ose dire, le match Macron-Le Pen. Vous les sentez aller où? Les gens de chez vous.
D'abord, nous, Laurent Berger. Ce qu'on essaye de faire, c'est de jouer notre rôle d'organisation syndicale. On n'est pas un parti politique. Hein. Notre rôle d'organisation syndicale, c'est de regarder où sont les nouvelles alliances et quel modèle de développement on peut essayer de construire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce pacte du pouvoir de vivre. Et puis aussi, de faire notre travail quotidien dans les entreprises, de défendre les salariés sur leur situation concrète. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les élections qui se passent dans les entreprises, on continue de progresser parce que on répond à ce sentiment-là des salariés.
Donc vous sentez le corps social, quand même. Après, notamment dans le privé.
Mais oui, bien sûr, dans le privé, on progresse, tout le monde le sait. Mais par contre, la question après du débouché politique, c'est pas notre problème à nous.
Non, mais ça peut vous quand même.
Mais de fait, moi, je crois que je vais dire les choses comme je le pense. Les partis politiques traditionnels se sont écroulés pas parce que tout d'un coup est arrivé une nouvelle personne qui est Monsieur Macron. Ils se sont écroulés parce qu'ils n'ont pas travaillé sur la façon de penser le monde. Vous savez, c'est très difficile.
Vous les regrettez? Le Parti Socialiste,
Je regrette l'UMP. Qu'il n'y ait pas plus de diversité et que le match puisse se résumer un jour, je crois que c'est dangereux, entre l'extrême droite et le parti de M. Macron.
Mais est-ce que c'est Emmanuel Macron qui fait monter le Rassemblement National par sa politique, par exemple, ou est-ce que finalement le climat social dans lequel on est aujourd'hui fait grimper mécaniquement
Marine Le Pen? Non, je crois que c'est différentes raisons qui le font grimper, mais que les inégalités, c'est très très fort, notamment les inégalités territoriales. L'ambiguïté sur un certain nombre de sujets le fait grimper. On pourrait parler d'immigration. Et puis, ce qu'il fait grimper, c'est le fait que on n'est pas capable de définir un modèle qui donne envie, y compris à ceux qui sont le plus en difficulté, de s'y inscrire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais la semaine dernière dans la ville d'où je viens, à Saint-Nazaire, et j'ai discuté avec le maire que je connais bien, du travail dans les au chantier à Airbus, beaucoup en ce moment, beaucoup de carnets de commandes, une ville qui s'est beaucoup embellie et qui est très agréable à vivre, des gens, des politiques sociales toujours menées par cette municipalité, et un Front National qui est crédité de autour de 15%, j'espère beaucoup moins, mais enfin un peu plus sans doute dans les sondages qui pourraient être réalisés. Moi, quand j'étais conseiller en insertion professionnelle dans cette ville, il y avait 15% de chômeurs. Le Front National était à 3%. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge sur ce qui fait qu'à un moment donné, des citoyens, sans être tous dans une situation difficile, ont envie de se tourner vers autre chose. Moi, je crois profondément que c'est parce que il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une utopie d'une certaine manière collective qui nous emmène vers autre chose, et que ça, c'est le rôle des partis politiques de la reconstruire. Faut qu'ils travaillent pour ça.
Il reste quelques minutes. Françoise
Fressoz. Comment vous faites, vous, justement, qui portez cette vision, sans débouché politique, puisque vous dites, au fond, les partis politiques qui l'incarnaient se sont effondrés. Quel problème ça vous pose à vous?
Laurent Berger. Ça nous pose pas spécial, ça pose un problème à la société, pas spécialement à la CFDT. Après, les citoyens, les militants et les adhérents de la CFDT, ils font leur choix en toute liberté. Nous, on les guide pas sur un vote. On dit simplement que l'extrême droite n'est pas une option.
Mais quand on vous voit, par exemple, vous rapprocher de Nicolas
ensuite,
Hulot, est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'action syndicalo-politiques?
Syndicalo-associatives, société civile, bien sûr. Il faut que la société civile s'organise pour construire des visions, des propositions et des actions concrètes. Et c'est pas que Nicolas Hulot, ce sont toutes les organisations. C'est Christophe Robert d'Abbé Pierre, Claire Hédon d'ATD Carmonde, Véronique Fayet du Secours Catholique, Orlane François Lafache, Thierry Baudet.
Ça a été Pascal Canfin avec qui vous avez travaillé sur ces sujets, mais qui est parti, lui, pour le coup, rejoindre le camp d'Emmanuel Macron.
Je suis très fier du travail qu'on a fait avec Pascal Canfin.
Sur le social et l'environnement.
Sur un livre qui s'appelait Réinventer le progrès, parce que je crois que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et chacun, après, trouvera son chemin pour le faire. Le mien, il est syndical.
C'est vrai.
Et demain, il sera associatif.
Mais la politique, la situation est aussi liée à des rapports de force. Et là, en l'occurrence, lorsque vous voyez ce qui se profile le 5 décembre prochain, Qui cédera d'après vous ? Le gouvernement ou les syndicats ?
Moi, je voudrais que ce soit l'issue,
Quelqu'un doit céder.
Ah non, mais ce qu'il faut, moi je pense qu'il faut écouter la CFDT. Je suis désolé, vous m'invitez.
Est-ce que vous avez
non, bien sûr. Dites-nous.
Le chemin,
c'est une vraie question.
Le chemin, c'est de montrer qu'il y a une réforme.
Vous êtes un observateur engagé, d'après vous, qui
je suis plus un acteur engagé, j'espère, plus qu'un observateur, mais je pense qu'il faut très clairement une réforme des retraites qui soit juste.
Est-ce que vous êtes optimiste pour reformuler la question d'Ali? Essayez.
Vous n'avez pas le choix, quand vous occupez cette responsabilité, d'être optimiste. Si vous pensez que tous les matins, tout est foutu, il n'y a rien de possible, il faut arrêter, il faut retourner d'où vous venez. Et donc, moi, je continuerai de militer pour une société beaucoup plus juste, un monde du travail beaucoup plus juste, où on n'oublie pas tout un tas de travailleurs dont on parle finalement quasiment jamais, et c'est ceux que je rencontre toutes les semaines. Et puis, je ferai en sorte que, politiquement, on n'oublie pas qu'une société devrait s'élever, enfin en tout cas s'élève de mon point de vue, quand on commence à s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté pour les faire progresser et pas l'inverse.
Autre sujet, la grève à Radio France qui démarrera demain avec plusieurs syndicats qui appellent à la grève, la CGT, le SNJ Sud, la CFDT pour le coup, contre le plan de départ volontaire qui touchera près de 300 salariés de Radio France. Argument du Premier ministre qu'on entendait sur France Inter jeudi dernier, il faut participer à l'effort de redressement des finances publiques.
Vous savez,
argument légitime selon vous ou pas ?
Non, je vais vous dire. Ça illustre parfaitement ce qu'est la situation actuelle sur tout un tas de sujets. Vous avez des antennes qui aujourd'hui sont à leur top niveau par rapport à ce qu'elles n'ont jamais été.
En termes d'audience.
En termes d'audience, mais permettez-moi de le dire, sans flagornerie, je vous ai dit ce que je pensais par ailleurs, en termes de qualité de programme aussi. Avec de plus en plus de gens qui vous écoutent. Comment vous voulez faire comprendre que la performance d'une entreprise, mais là d'une entreprise publique, d'une radio de Radio France, se mesure à la seule question budgétaire et économique. C'est pas possible. Et c'est vrai dans tous les éléments. Et vous, je suis désolé de faire la comparaison, c'est pareil sur la retraite. Comment vous voulez donner envie de vous inscrire dans des évolutions qui sont sans doute souhaitables si vous commencez par dire il va falloir de la sueur et des larmes? Eh bien, ça marche pas. Donc moi, avec la CFDT Radio France, je soutiens les travailleurs de Radio France, même si évidemment, ils vont nous priver d'une partie des programmes.
Juste pour finir sur la retraite, il y avait une expression qu'on entendait beaucoup la semaine dernière sur le mur du 5 décembre. À la fois, est-ce que c'est un mur qu'on peut pas sauter ou est-ce que c'est un mur dans lequel on fonce ? Avec l'impression, dans un certain nombre d'articles de journaux, que le gouvernement était un peu tétanisé ou du moins un peu...
Attendez,
j'ai pas fini. Sentez-vous cette même anxiété ? Ou au vu des déclarations d'il y a deux jours, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont plutôt la fleur au fusil ? Comment vous les sentez ? Vous allez les voir dès demain.
Non, mais moi je crois que se construit une logique d'affrontement pour les semaines à venir. Et je pense que la solution, ce n'est pas une logique d'affrontement. C'est une logique de négociation, de justice et de réforme qui soit assumée, mais que la réforme des retraites qui amènerait de la justice et de la lisibilité. Et donc, oui, je crois que de chaque côté, je vais vous répondre, je crois que de chaque côté, il y a des logiques d'affrontement et que finalement, tout le monde aime bien ça parce que ça va permettre de faire de montrer chacun de son côté des muscles. C'est idiot. C'est malheureusement comme ça que ça se construit.
Vous pensez et à la CGT, demain, là, par exemple,
Non, je pense à tous ceux qui pensent que le seul logique, c'est de savoir comment on va s'affronter avant de savoir comment on va trouver des solutions sur un certain nombre de sujets. Et moi, comme je suis syndicaliste...
Donc la CGT ?
Comme je suis syndicaliste, je considère que le système actuel est injuste. Et j'y vais demain parce que tant qu'il y restera une once de possibilité par la discussion de faire avancer les idées, j'en serai et la CFDT en sera.
Merci Laurent Berger d'avoir été notre invité. Bon dimanche. Donc vous ne serez pas dans la rue le 5 décembre ?
Je vous le confirme.
Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Merci à toutes les trois et rendez-vous la semaine prochaine.